Voilà les disciples confrontés à la mort prochaine de Jésus. Si on se contentait d'une lecture superficielle, on pourrait se dire que ce récit ne nous concerne plus tellement. C'est vrai, c'est de l'histoire ancienne. Nous n'avons pas connu Jésus du temps où il sillonnait les routes de Galilée ou de Jérusalem. La distance temporelle qui nous sépare de lui et de ses compagnons de route nous place dans une posture de spectateur d'une aventure qui n'est pas la nôtre. Notre connaissance de ces textes est aussi à double tranchant parce qu'elle nous les rend trop familiers pour être encore surprenants et intéressants. Le destin de Jésus et de ses amis ne nous prend plus aux tripes et nous n'arrivons plus à nous émouvoir de leur sort. Le travail de deuil des disciples se retrouve ainsi enfermé dans un passé révolu et nous ne voyons pas d'emblée en quoi ces lignes pourraient éclairer notre vie présente. Mais replongeons-nous un peu dans la situation des premiers lecteurs de l'Évangile de Jean, car l'Évangile de Jean a été écrit et il a circulé dans les communautés qui se réclamaient de l'enseignement de Jésus bien après la mort de ce dernier. Et ses adeptes, qui n'étaient pas encore des chrétiens au sens propre, parce qu'ils ne se considéraient pas encore en rupture avec le judaïsme dans lequel Jésus avait évolué, avaient de la peine à renouer avec la pertinence du message de l'Évangile, car le récit de la vie de Jésus était devenu pour eux à la fois familier et étranger, comme pour nous. Ils vivaient dans un monde qui leur était hostile. Ils avaient été mis à l'écart de la synagogue de leur région, et ils se sentaient rejetés et méprisés. Puis le temps avait passé, l'histoire de Jésus était devenue lointaine, il n'était pas toujours facile de savoir en quoi les actes et les paroles de ce maître spirituel pouvaient être porteuses de sens et d'espérance dans leur vie de tous les jours et dans la société de leur époque. Alors ils avaient besoin de restructurer leur foi, de la rendre à nouveau pertinente, de lui donner les moyens de s'exprimer de manière cohérente. Et c'est à cela que veut s'employer l'Évangile de Jean. Mais en quoi la vie de ces premières communautés nous concerne-t-elle encore? Leur situation n'est plus la nôtre. Pourtant, même si nous pouvons nous retrouver en toute tranquillité et que nous ne sommes en conflit ni avec les autorités ni avec les autres églises, nous vivons aussi une période de crise. Les vocations pastorales se font rares, les gens désertent nos rencontres et nous avons progressivement glissé dans les marges de notre société. Notre activité n'est plus au centre des préoccupations de notre monde. Même si nous recevons ici ou là des marques de reconnaissance, force est de constater que nous n'avons plus un rôle aussi évident que par le passé. Il n'est pas toujours facile de s'engager dans nos communautés, de prendre du temps pour les faire vivre, de leur donner une vraie place dans la liste de nos priorités. Dans la société des loisirs, nous sommes devenus une option parmi d'autres. Alors bien sûr, nous nous adaptons au changement. Nous avons pris acte du manque de culture chrétienne d'une grande partie de nos contemporains et nous avons appris à communiquer d'une manière plus attrayante et plus accessible. Nous avons tenté de construire des ponts entre une société plurielle et notre tradition spécifique. Nous avons pris en compte les besoins de nos contemporains et tenté de les rejoindre en leur offrant un message pertinent et éclairant. Mais force est de constater qu'on nous boude encore passablement et que notre travail d'adaptation est un ouvrage à remettre chaque jour sur le métier. Rester connecté au monde tout en restant fidèle à notre tradition, ce n'est pas une promenade de santé. Nous vivons dans un monde qui ne nous est pas hostile, mais qui nous ignore, passablement. Moi, je me souviens d'avoir endossé ma robe pastorale avec beaucoup d'appréhension, car je me demandais comment j'allais assumer un métier mal connu et peu valorisé. Les jeunes qui font leur caté sont minoritaires parmi leurs semblables. Entrer dans cette démarche n'est plus aussi banal que par le passé. On craint d'être isolé, d'être incompris. Puis il y a tous ces marchands de haine et d'intolérance qui instrumentalisent la tradition chrétienne pour la mettre au service d'une idéologie qui rejette le Dieu d'amour qui s'incarne en Jésus. Et ces personnes nuisent indirectement à notre image. Et puis il y a aussi toutes ces situations de la vie personnelle où les épreuves nous rattrapent et nous fragilisent. C'est difficile d'intégrer dans nos récits de vie la perte d'un être cher, la maladie, la trahison, la violence ou le rejet. Dans ces moments de grande vulnérabilité, trouver des ressources est un défi. Et il ne suffit pas d'annonner machinalement des prières comme on récite des formules magiques pour que tout s'arrange en un instant. Encore faut-il pouvoir intérioriser une perspective qui nous aide à interpréter notre situation, à lui donner sens et à en relativiser les aspects les plus difficiles. Dans ces moments de doute, nous sommes invités à relire les textes qui sont le socle de notre identité chrétienne. Et comme toujours, nous nous retrouvons avec des paroles qui résistent à notre soif d'évidence. Elles nous déplacent, elles nous déroutent. « Il est préférable pour vous que je parte, » dit Jésus. Mais en quoi cette absence peut-elle bien être positive et bénéfique? Elle nous confronte au vide, à l'incertitude. Elle ne nous offre pas de recettes à appliquer pour surmonter les difficultés. En fait, cette absence nous offre un espace de liberté. De la même manière que le repos de Dieu nous institue gardien de sa création et nous donne la responsabilité d'en faire un lieu salutaire pour tout le monde, l'absence de Jésus nous institue interprète de son parcours au cœur du monde. Nous ne sommes pas les petits exécutants de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tenus d'apprendre une doctrine par cœur et de la réciter pour nous immuniser contre le doute. Nous sommes des interprètes qui s'emploient à relire le passé et le présent, à relier les promesses et leurs signes, à mettre ensemble un message d'amour et notre intériorité. L'évangile de Jean nous raconte que Jésus est le seul visage que Dieu veut prendre pour le monde. Un visage comme les autres, qui s'illumine, qui s'assombrit, qui se réjouit, qui redoute, qui sourit à la vie et qui pleure la mort de ses amis. Un visage qui n'a été épargné par aucune étape de l'existence, ni la naissance, ni la souffrance, ni la mort. Le visage de Dieu pour le monde est celui d'une présence sans faille, qui ne renonce pas à nous accompagner, même là où tout semble prendre fin. Cette présence nous rejoint, elle nous accompagne, mais elle ne reste pas prisonnière des aléas de l'histoire. Elle n'est pas enfermée dans un passé révolu. Quand Jésus dit qu'il s'en va, c'est une manière d'affirmer que le Dieu qui s'est révélé dans son parcours transcende les lieux et les époques, qu'on ne peut pas fixer son action une fois pour toutes à un moment et à un endroit. Il n'est pas forcément là où on l'attend. Et c'est ainsi qu'il veut rester présent, en nous ouvrant des perspectives au-delà de ce qui paraît indépassable et insurmontable, en ouvrant la porte de nos tombeaux. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mépriser ce qui fait notre existence quotidienne et nous retirer du monde. Dieu nous invite à lever le nez du guidon et à ne pas nous engager dans des impasses. Mais pour autant, il ne s'agit pas de dévaloriser notre vie quotidienne. Car c'est ici et maintenant qu'on peut goûter la vie que Dieu nous promet. Dans les hauts et les bas qui jalonnent notre parcours, il y a des petites perles d'éternité à saisir ici ou là. Des gestes et des paroles qui font du bien et qui témoignent d'une vie plus forte que tout ce qui semble mettre en péril ce que nous construisons jour après jour. Pour marquer ce dimanche de fête des mères, nous avons pour tradition d'offrir une rose à la fin du culte. Une rose, c'est éphémère, comme notre existence. Mais dans cette fragilité, il y a quelque chose qui nous enchante, une grâce et une beauté qui nous rappelle que notre vie est porteuse d'une dignité que rien ne peut briser. Alors bien sûr, nous n'avons pas toujours été des parents parfaits qui avons su apporter jour après jour bienveillance et compréhension à nos enfants. Nous n'avons pas toujours été des enfants modèles qui avons su pardonner leurs erreurs à nos parents et être les soutiens indéfectibles de leurs vieux jours. Nous n'avons pas toujours laissé la vie circuler entre nous pour restaurer nos liens. Mais une rose nous rappelle qu'un simple geste, aussi modeste soit-il, peut avoir une portée qui le dépasse et qui fait signe vers un amour bien plus grand que celui que nous pouvons donner. Un amour qui accompagne notre vie et qui se maintient malgré nos ambivalences et nos inconstances. Un amour qui nous dit avec les mots du Petit Prince de Saint-Exupéry « Je te connais, moi, une rose unique au monde ». C'est dans des choses toutes simples que nous puiserons la force de nous maintenir au sein d'un monde indifférent. Tant que nous saurons trouver des signes de la grâce dans nos fragilités, nous offrirons à nos semblables un témoignage capable de redresser leur vie envers et contre tout. Alors bien sûr, il y aura toujours une partie de nous qui résistera à la force de renouvellement de cette vie en nous et autour de nous. Une partie qui refusera de croire que nos existences peuvent être habitées par une vie plus large et plus intense, qui s'enfermera dans ses échecs, qui ressassera jusqu'à la nausée ses déceptions. Cette partie de nous a crié à mort lorsque Jésus a été condamné. Elle l'a cloué sur la croix pour l'empêcher de nous surprendre en nous offrant les roses qui racontent la beauté de notre vulnérabilité. Elle continue jour après jour à refuser de chercher les signes d'un amour qui accepte nos zones d'ombre et qui nous offre la promesse d'un jour nouveau. Mais la vie a été plus forte que la mort et elle déjoue toujours à nouveau ses tentatives de nous éloigner de l'amour qui sème des roses sur notre chemin. Amen.